Chapitre 5. Au chapitre 4, nous avons appris que l'apôtre était préservé de se lasser dans ses nombreuses épreuves en regardant au-delà des choses visibles et temporelles vers les choses invisibles de l'éternité. Au chapitre 5, nous avons le privilège d'apprendre quelque chose de la béatitude de ces choses éternelles. Nous regardons dans les cieux pour voir qu'un corps de gloire y attend chaque croyant et voir que nous serons avec le Seigneur ayant part à la nouvelle création dans laquelle les choses vieilles sont passées et toutes choses sont faites nouvelles. Versets 1 à 4. Citation de l'Écriture. Car nous savons que si notre maison terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main, éternelle dans les cieux. Car aussi, dans cette tente, nous gémissons, désirant avec ardeur d'avoir revêtu notre domicile qui est du ciel, si toutefois, même en étant vêtus, nous ne sommes pas trouvés nus. Car aussi, nous qui sommes dans la tente, nous gémissons, étant chargés. Non pas que nous désirions d'être dépouillés, mais nous désirons d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Fin de citation. Utilisant l'image d'une maison, l'apôtre met en contraste ces corps mortels dans lesquels nous habitons avec les corps de gloire qui nous sont préparés. Notre maison actuelle est terrestre, humaine, temporelle et mortelle. Notre corps de gloire est du ciel, de Dieu, éternel et immortel. Avec la confiance que donne la foi, le croyant peut dire, sans l'ombre d'une incertitude, « nous savons ». C'est-à-dire, nous connaissons la portion bénie qui nous attend quand nous serons libérés de ces corps mortels. Cette portion nous étant assurée, l'apôtre peut dire deux fois, nous gémissons. Ayant en vue la gloire du corps nouveau, nous gémissons avec le désir ardent de le revêtir. Sentant les charges qui pèsent sur le corps mortel, nous gémissons avec l'envie de l'avoir dépouillé. Ici-bas, le Seigneur a frémi en sentant les douleurs qui accablent les siens tandis qu'ils étaient dans ces corps mortels. Dieu admet un gémissement, un frémissement, jamais une plainte. Étant revêtus de ce corps glorieux, nous ne serons pas trouvés nus, comme Adam déchu et exposé au jugement. L'apôtre ne désirait pas la mort en tant que tel. Il ne cherchait pas simplement à être dépouillé et ainsi à échapper aux épreuves du présent, aussi béni soit-il. Il aspirait à la pleine bénédiction d'avoir le corps nouveau. Il attendait l'enlèvement lorsque les corps des croyants vivants seront transformés en corps de gloire sans passer par la mort. Car ici il ne parle pas de corruption, revêtant l'incorruptibilité, mais du corps mortel revêtant l'immortalité, et étant ainsi absorbé par la vie. Versets 5 à 9. Citation de l'Écriture. Or, celui qui nous a formés à cela même, c'est Dieu, qui nous a aussi donné les arts de l'Esprit. Nous avons donc toujours confiance, et nous savons qu'étant présents dans le corps, nous sommes absents du Seigneur, car nous marchons par la foi, non par la vue. Nous avons, dis-je, de la confiance, et nous aimons mieux être absents du corps et être présents avec le Seigneur. C'est pourquoi aussi, que nous soyons présents ou que nous soyons absents, nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréables. Fin de citation. Cette portion bénie sera entièrement le résultat de l'œuvre de Dieu. Il nous a façonnés en vue du corps de cette nouvelle création et aussi afin que nous puissions déjà maintenant entrer dans la béatitude à venir. Il nous a donné les arts de l'esprit. Entrant dans cette perspective glorieuse, par les arts de l'esprit, nous avons donc toujours confiance. Si nous sommes encore présents dans le corps, et donc absents du Seigneur, nous sommes confiants, car nous marchons par la foi, non pas par la vue. Si nous sommes appelés à passer par la mort avant la venue du Seigneur, nous avons de la confiance, car cela signifiera la béatitude d'être présent avec le Seigneur. L'effet pratique d'entrer dans la béatitude de la portion qui se trouve devant nous sera de nous rendre zélés pour être agréables à Dieu dans toute notre marche et nos voies, non seulement dans le futur, mais tant que nous sommes absents du Seigneur. Nous pouvons en effet montrer beaucoup de zèle en cherchant à vivre d'une manière qui nous soit agréable, ou en nous rendant agréables aux autres. Mais il est bon que nous nous demandions, sommes-nous zélés dans toutes nos pensées, nos paroles, notre marche et nos voies, de manière à être agréables à Dieu? Versets 10 à 15. Citation de l'Écriture. Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. Connaissant donc combien le Seigneur doit être craint, nous persuadons les hommes, mais nous avons été manifestés à Dieu, et j'espère aussi que nous avons été manifestés dans vos consciences. Nous ne nous recommandons pas de nouveau à vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier de nous, afin que vous ayez de quoi répondre à ceux qui se glorifient extérieurement et non pas du cœur. Car si nous sommes hors de nous-mêmes, c'est pour Dieu. Si nous sommes de sens rassis, c'est pour vous. Car l'amour du Christ nous étreint. En ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. Fin de citation. La mention de notre marche conduit l'apôtre à parler de notre responsabilité et de ce que nous avons fait, en contraste avec ce que Dieu a opéré dans sa souveraineté. Il considère ainsi le tribunal de Christ qui se trouve à la fin de notre chemin de responsabilité. Il dit, il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ. Le contexte semble montrer que cette déclaration de l'apôtre est générale et qu'elle inclut aussi bien les croyants que les incroyants. Cependant, du fait que les croyants y seront, il ne dit pas « il faut que nous soyons tous jugés », mais « il faut que nous soyons tous manifestés ». Pour la même raison, semble-t-il, il ne parle pas du jugement des personnes, mais il parle des choses accomplies dans le corps. Les propres paroles du Seigneur nous disent que le croyant ne vient pas en jugement. Jean 5, verset 24. Rappelons-nous aussi que nous atteindrons le tribunal du Christ par la venue de Christ, à l'occasion de laquelle nous serons transformés à l'image du céleste. Ainsi, lorsque nous nous tiendrons devant le tribunal de Christ, nous aurons un corps de gloire comme Christ. Nous serons comme le juge. Pour nous, croyants, ce seront nos actes, les choses faites dans la chair, tant bonnes que mauvaises, qui seront passées en revue. Combien de manquements, aussi bien que de bonnes choses dans nos vies, avons-nous complètement oubliées, ou même jamais connues? Mais tout sera alors rappelé, de sorte que nous connaîtrons comme nous avons été connus. 1 Corinthiens 13, verset 12. L'effet n'en sera-t-il pas d'accroître l'appréciation de l'amour et de la grâce, qui, d'une part, se sont déjà occupés de tout notre mal, et nous ont amenés sains et saufs à la maison malgré nos nombreux manquements, et qui d'autre part récompenseront le moindre acte ayant eu Christ pour motif. Si tout le passé n'était pas rappelé, nous perdrions, comme quelqu'un l'a dit, des motifs pour le chant de louange qui sera le nôtre pour toujours. La manifestation au tribunal de Christ n'est pas pour nous rendre propres pour la gloire, mais pour nous permettre de jouir pleinement de la gloire. L'apôtre parle ensuite de l'effet présent de savoir que nous devons tous être manifestés devant le tribunal du Christ. Bien que ceux qui y comparaîtront soient à la fois les croyants et les non-croyants, nous savons, par d'autres passages, que ce sera à des moments très différents et dans des buts très différents. Pour les non-croyants, le jour de la manifestation sera un jour de terreur, car il signifiera non seulement la manifestation des actes accomplis, mais le jugement des personnes. Sachant cela, l'apôtre persuadait les hommes de fuir la colère à venir. Pour le croyant, savoir qu'il sera manifesté au tribunal de Christ doit le pousser à chercher à être manifesté à Dieu déjà maintenant, et donc de vivre et marcher dans la présence de celui qui nous connaît parfaitement. Quant à lui-même, l'apôtre avait confiance que, marchant ainsi devant Dieu, il manifesterait une marche personnelle envers les saints qui seraient approuvés par leur conscience. Sa vie, parlant ainsi, il n'avait plus besoin de se recommander lui-même. Néanmoins, il avait confiance que sa vie leur donnerait l'occasion de se glorifier de lui et ainsi de répondre à ceux qui se glorifiaient de leur apparence extérieure devant les hommes, alors qu'il leur manquait les motifs de cœur pur et caché devant Dieu. En contraste avec ceux qui se vantaient sans cœur de leur apparence extérieure, l'apôtre était animé par des affections divines qui l'élevaient en dehors de lui dans la joie de tout ce que Dieu est, et qui pourtant le rendaient de sens tout à fait rassis par rapport aux saints. Mais, hors de lui-même ou de sens rassis, c'était toujours l'amour de Christ qui l'étreignait. Cet amour avait été manifesté dans toute sa plénitude à la croix. Là, Christ est mort pour tous. La croix est le témoignage à la fois de l'amour du Christ pour tous et du profond besoin de tous. Ainsi, dans sa prédication au monde, Paul était animé à la fois par la crainte du Seigneur, la frayeur du Seigneur, et par l'étreinte de l'amour de Christ. Ainsi, dans ces versets qui nous sondent, on voit l'effet pratique de savoir que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Quant au monde, cela conduit l'apôtre à persuader les hommes. Quant à lui-même, cela le conduit à marcher sous le regard de Dieu, en lui étant manifesté. Quant aux saints, cela conduit l'apôtre à marcher d'une manière qui le recommande à leur conscience. Par conséquent, dans sa marche et dans ses voies, il tenait compte du besoin du monde, de la crainte de Dieu et des consciences des saints. L'apôtre continue en parlant de l'amour de Christ comme la puissance qui étreint la nouvelle vie du croyant. Si, dans son grand amour, Christ est mort pour nous et est ressuscité, il nous convient de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour lui. Versets 16 à 21. Citation de l'Écriture. En sorte que nous, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles, et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation, savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre moyen. Nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Fin de citation. Or, si Christ est mort et est ressuscité, on ne peut plus le connaître sur terre et dans la chair, mais seulement comme celui qui a un corps glorifié dans une toute nouvelle position dans la gloire. Cela conduit l'apôtre à parler de la nouvelle création. La mort est la fin de l'ancienne création, et la résurrection est le commencement de la nouvelle. Dans l'ancienne création, il y a eu d'abord la création du monde matériel, puis celle d'Adam, le chef ou tête de cette création-là. Dans la nouvelle création, Christ, la tête, vient en premier, puis ceux qui sont du Christ, et enfin les nouveaux cieux et la nouvelle terre dans lesquels les choses vieilles sont passées. Le péché, la douleur, la peine, les larmes et la mort, et dans lesquelles toutes choses sont faites nouvelles, et toutes sont de Dieu. Toutes choses étant de Dieu, dans cette scène de justice, toutes seront appropriées à Dieu, et ce sera donc une scène dans laquelle Dieu pourra se reposer avec une pleine satisfaction. En attendant, Dieu a déjà réconcilié les croyants avec lui-même par Jésus-Christ. Par l'œuvre de Christ, nous sommes placés devant Dieu en Christ, délivrés des conséquences du péché et placés dans toute la faveur qui repose sur Christ dans la gloire, avec en plus l'amour de Dieu versé dans nos cœurs. Étant réconciliés, l'apôtre peut dire qu'un ministère de réconciliation nous est donné avec lequel nous pouvons aller vers le monde. Quand Christ était ici-bas, Dieu était en Christ, proclamant l'amour et la grâce de Dieu. Mais Christ a été rejeté et a quitté le monde. Mais même ainsi, pendant le temps de son absence, la grâce de Dieu envoie ses serviteurs comme ambassadeurs pour Christ et à sa place, pour supplier ce pauvre monde d'être réconcilié avec Dieu. Certaines versions écrivent le verset 20 avec deux fois le mot vous. Dieu, pour ainsi dire, vous exhortant par notre moyen, nous vous supplions pour Christ. Ces vous doivent être omis. Leur insertion limite la vérité aux croyants, alors que l'appel est pour le monde. Le croyant est réconcilié et sait que cette réconciliation a été effectuée par la mort de Christ, dans laquelle il a été fait, sur la croix, ce que nous étions devant Dieu, péché. Afin que nous puissions devenir ce qu'il est devant Dieu dans la gloire, justice de Dieu, étant donc rendu parfaitement convenable pour Dieu. En vue du jugement à venir, l'apôtre persuade les hommes. En vue de la grâce de Dieu qui proclame l'œuvre de la réconciliation, il supplie les hommes. Si les hommes refusent la grâce qui réconcilie, il ne reste rien pour eux que la terreur du jugement. Pour résumer les grandes vérités de ce chapitre 5, il a été placé ceci devant nous. La maison qui est du ciel, nous délivrant de la peur de ce qui peut arriver à ces corps pendant que nous sommes ici-bas, versets 1 à 8. Le tribunal de Christ, qui nous conduit à chercher à être agréable à Christ et à persuader les hommes, versets 9 à 12. L'amour de Christ, qui nous étreint afin de vivre pour lui et non pas pour nous-mêmes, versets 13 à 15. La nouvelle création, qui nous délivre de connaître les hommes selon la chair, versets 16 et 17. La réconciliation, qui nous amène à supplier les autres d'être réconciliés avec Dieu, versets 18 à 21.